Au commencement, le mot chrétien devait être un sobriquet, voire même une insulte. Entre eux, les premiers chrétiens se servaient d'autres termes pour se désigner eux-mêmes. Ils se disaient « disciples » ou « frères », ce dernier terme soulignant surtout leur appartenance à une même famille spirituelle qui a Dieu pour Père. Ils étaient aussi les saints, c'est-à-dire ceux qui avaient été mis à part, séparés du monde. Lorsque l'on put compter des disciples par dizaines de milliers, on commença à remarquer cette secte qui répandait partout ses enseignements concernant un certain Christ qui avait été crucifié, mais que l'on disait vivant. C'est ainsi que l'on connaissait les premiers chrétiens. Et c'est parce qu'ils avaient toujours le Christ à la bouche et au cœur qu'on les appela des chrétiens. Peu à peu, les disciples s'habituèrent à ces termes et l'adoptèrent comme un titre de gloire. Ce fut à Antioche, en Syrie, que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, nous apprend l'évangéliste Luc, dans les Actes des Apôtres. Dans une des lettres de l'apôtre Pierre, nous pouvons lire cet encouragement. « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » La fierté d'être chrétien. Pierre écrit à des hommes et des femmes qui devaient endurer des sévices à cause de leur foi. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, écrit-il encore, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Et c'est après ces mots, qui sont un écho des paroles mêmes du Christ, qu'il fait appel à leur honneur et à leur fierté d'être chrétien. « N'ayez point honte de ce nom, soyez-en fiers. » Je frémis d'émotion à la pensée que ceux qui ont lu ces mots de l'apôtre, ou qui les ont entendus lire dans leurs assemblées comme cela se faisait, sont de cette génération de martyrs qui ont consenti à donner leur vie au Maître dont ils portaient le nom. Et je me demande ce qu'il reste aujourd'hui de cette fierté d'être chrétien. Je ne parle pas évidemment de cette fierté qui est en réalité de l'orgueil et de la suffisance. On est confortablement installé dans ses principes, on a une bonne moralité, on remplit ses devoirs religieux, Dieu merci, on n'est pas comme certaines personnes qui sont malhonnêtes et hypocrites. Ça, ce n'est pas être chrétien, c'est être pharisien. Et l'on sait ce que le Christ pensait des pharisiens. Je veux parler de ce sentiment noble et digne qui se confond avec la reconnaissance, l'admiration, l'amour et l'honneur. Pensez à l'enfant qui est fier de son père. Pensez à la femme qui est fière de son mari, à l'homme qui est fier de son pays. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre et cultiver la fierté chrétienne. Le chrétien est fier d'être chrétien parce qu'il sait en qui il croit. Il sait qui est son Dieu et ce qu'il a fait pour lui personnellement. Voyez combien les apôtres se soucient de rappeler aux chrétiens leur glorieuse appartenance à celui qui les a rachetés. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Le même apôtre ajoute « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Le chrétien est fier car il a conscience d'avoir accédé à une vie supérieure. Sa vie n'est plus une existence, elle est une progression, une ascension, un accomplissement, un constant devenir. Cette faculté de pouvoir vivre pleinement sa vie en l'envisageant toujours sous le regard de Dieu, dans ses moindres aspects, confère au chrétien une sorte de dignité. Fierté et dignité sont inséparables. C'est précisément un appel à la fierté et à la dignité chrétienne que fait l'apôtre Paul lorsqu'il écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » C'est par fierté et dignité que le chrétien ne craindra ni la vie ni la mort. Il se sait libéré de cette peur avilissante de la mort et du pessimisme qu'elle engendre. Il sait que le Christ en qui il croit a vaincu la mort pour lui. C'est pour lui une réalité primordiale. Il sait ce qu'il peut attendre de la mort parce qu'il sait ce qu'il peut attendre de la vie. Un auteur moderne ne disait-il pas que ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort? C'est par fierté et dignité que le chrétien refusera de se prosterner devant les dieux modernes tels que l'argent, le confort, le plaisir, la science. C'est par fierté et dignité qu'il ne s'autorisera pas à mentir, à envier ou critiquer les autres. C'est parce qu'il sait à qui il appartient et quel maître il sert qu'il ne permettra pas à l'égoïsme de faire sa demeure en lui et qu'il ne livrera pas son corps à l'impureté. C'est aussi par fierté et dignité qu'il ne se laissera pas paralyser par la crainte du « qu'en dira-t-on ?» car il sait très bien que l'opinion publique ne correspond pas toujours à la volonté de Dieu. Nous pourrions continuer cette liste, qui nous a aidés, je l'espère, à nous interroger loyalement. Mais elle est déjà suffisamment explicite pour nous montrer que lorsque nous parlons de fierté chrétienne, c'est en fait de fierté de l'homme que l'on peut parler. En effet, c'est de l'homme tout entier dont s'empare le Christ. Et c'est tout entier que l'homme doit se donner. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, » dira l'apôtre Paul, « et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est en Christ que l'homme découvre véritablement sa vraie dimension. C'est en Christ qu'il est achevé dans sa création. Parce qu'en lui, par la foi et le baptême, il est passé par une nouvelle naissance. Le chrétien est fier parce qu'il a conscience du rôle primordial qu'il est appelé à jouer dans la société humaine. « Vous êtes le sel de la terre », a dit le maître. Le sel doit préserver, c'est-à-dire empêcher la corruption de ce avec quoi il entre en contact. Vous êtes la lumière du monde. Une lumière est appelée à éclairer pour assurer la marche de ceux qui sans elle seraient désorientés et perdus dans leurs ténèbres. « Oh, bien sûr, ce sont de bien grands mots, me direz-vous. » Et il est bien naïf, le chrétien, qui s'imagine que sa présence dans le monde contribuera à le rendre meilleur. Mais pas aussi naïf que cela, cependant. Comme le jeune garçon de l'Évangile qui n'avait que deux pains et quelques poissons, il a tout confié au maître qui a su les multiplier. Il a donné ce qu'il avait. Il a fait ce qu'il a pu. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Mais faites-le avec foi. Avec la foi du semeur qui confie sa semence à la terre et qui sait très bien que chaque grain sera multiplié par 30, par 60, par 100. Aucune action, aucune parole, si petite, si insignifiante soit-elle, aucune souffrance, aucune larme, offerte pour l'amour de Dieu et par amour pour Dieu, ne sera stérile. Elle produira en temps voulu son fruit de bénédiction. Elle donnera sa lumière. Tout cela, c'est du fanatisme, diront certains. Mais si l'on qualifie de fanatisme toute forme d'apostolat qui risque d'être incomprise des gens ou même de les heurter, un chrétien ne doit pas craindre d'être traité de fanatique. Si l'on agit par souci de Dieu, on ne peut espérer être toujours compris de ceux qui ne le connaissent pas. Hélas, ils ne sont pas nombreux, ces fanatiques. Où est cette fierté chrétienne aujourd'hui? Devant les forces du mal qui se déchaînent, le mal sous toutes ses formes, brutal comme la guerre, sournois comme une mauvaise pensée semée dans un jeune esprit, on constate de plus en plus des signes de capitulation, de défection dans les rangs des croyants. Alors que le Christ les appelle à s'élever, à se distinguer par l'idéal qu'il leur propose, ils s'obstinent à vouloir faire comme tout le monde, penser comme tout le monde, agir et réagir comme tout le monde. Le chrétien ne doit pas, ne peut pas être comme tout le monde. Jésus nous l'a bien fait sentir lorsqu'il dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, sous-entendu, et seulement cela, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » C'est un futur impératif. Il condamne le satisfait qui se contente d'être comme tout le monde, et c'est un futur impératif qui enjoint à s'élever vers les sommets, à la rencontre du Christ, même si ses hauteurs paraissent inaccessibles, mais qui vise haut sortira en tout cas de la médiocrité. J'ai lu quelque part cette phrase d'une terrible lucidité. Lorsque les honnêtes citoyens d'une nation ne déploient pas au moins autant de zèle, d'énergie et de conviction que les canailles, cette nation est vouée à la perte. Le principe formulé dans cette remarque est parfaitement applicable au conflit qui oppose la foi à l'athéisme militant. Et j'ai pensé que dans le monde, la voix de ceux qui décrient la religion est souvent plus forte que celle de ceux qui devraient la défendre en la vivant. J'ai pensé que des milliers d'hommes et de femmes convaincus militent avec zèle pour que la société humaine soit un jour purgée de la religion, ce vestige du passé superstitieux, et que pendant ce temps, les chrétiens, je dois mettre ce terme entre guillemets, vivotent leur petite foi, au lieu de militer avec un zèle plus grand encore, pour que le monde soit conquis par la lumière du Christ. Et j'ai pensé aussi à ceux qui se trouvent entre les deux, la masse des indifférents ou des indécis. C'est vers cette masse que doivent se porter tous les efforts. Elle sera gagnée au Christ ou à l'irreligion. La victoire appartiendra aux plus convaincus. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà la grande question triste que le Christ a posée et que l'on peut encore poser aujourd'hui dans toute son angoisse. Mais l'important pour le moment, chers amis, ce n'est pas la foi du monde, c'est votre foi. Que trouvera-t-il dans votre vie? La foi ou l'indifférence? La fierté ou la honte? La dignité ou la démission? Je puis difficilement imaginer quelque chose de plus navrant, de plus douloureux que le cas d'un enfant qui a honte de son père, ou d'un père qui a honte de son enfant, ou d'une femme qui a honte de son mari. Pourtant, Jésus, connaissant le cœur des hommes, a dû envisager ce cas pour lui-même, puisqu'il dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, à mon tour je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, à mon tour, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. »